Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'avais un débat, et je fais un débat depuis plusieurs jours là dans ma tête tout seul, et j'aimerais le partager avec vous.
Le débat tout seul dans ta tête, toi.
Tout seul, je suis un vrai fou.
Vous en avez marre de voir tous les agents qui sont sur le même modèle avec les cheveux trop longs et des mauvaises chaussures qui viennent avec une voiture de location devant votre baraque.
C'est plutôt un joueur qui a égayé sa palette, comme on dit avec Mourinho.
Élargi peut-être.
Ouais, et élargi. Égayé, ça se dit pas.
Oui, on est champion d'Afrique.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Jennifer Mendelevitch et Walid Acharchour, c'est Génération After sur RMC. Avec notre invité, entraîneur du Red Star, Habib Bey est avec nous. C'est un plaisir d'écouter plein de messages positifs. Habib, passion, très bon client, tu l'as déjà dit, c'est pour ça que t'es consultant aussi, je pense. Personnalité clivante aussi, on le sait. Parfois,
certains, défaut,
il fait un peu le professeur Habib Bey.
Mais moi,
parce que le professeur, c'est Kevin Diaz en Génération.
Moi, je trouve que ces deux premières années à Canal, je crois quand tu débutes,
C'est une révélation.
J'ai jamais vu un consultant aussi aimé. Je pense, hein.
Ah oui.
Dans l'opinion.
Oui, bien sûr.
Après, il y a eu un switch. Je ne sais pas quand il est arrivé.
Parce que les gros matchs des champions, forcément.
Parce qu'en France,
mais sincèrement, les plus t'es exposé, on le sait ici. Eric Dimeco l'a vécu ici. Sur les gros matchs des champions, plus t'es exposé.
J'ai vu Duga. Le prime de Duga était très, très fort à un moment donné. Et le prime d'Habib, où sincèrement, il y avait unanimité autour d'Habib. Et il y a eu un moment donné où.
La surexposition, de toute façon.
C'est ça.
À un moment donné, amène tout ça. Et il faut qu'on soit très lucide par rapport à ça. Il faut qu'on prenne beaucoup de distance par rapport à ça. Et il faut accepter les critiques. C'est un jeu dans lequel on est lancé. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, il faut en accepter le fonctionnement. C'est un exemple. Les gens se plaignent des réseaux sociaux. Mais si tu ne veux pas le revers des réseaux sociaux, il ne faut pas y aller. Il
ne
faut pas communiquer. Et il ne faut pas t'exposer médiatiquement. Moi, aujourd'hui, tous les messages négatifs que je reçois, d'une, je ne réponds jamais. Et deux, ça fait partie du jeu. Et que je sois clivant aujourd'hui, sincèrement, ça ne me dérange pas. Les gens ont le droit d'avoir les avis qu'ils veulent sur mon métier de consultant, également sur ce que je suis en tant qu'entraîneur, et s'ils veulent, en tant que personne. Parce qu'au fond, on est maître de nos propres vies et on n'est pas là pour contenter un tel ou un tel. En fait, on fait ce métier avec passion, avec envie. Je pense que quand on donne nos avis et quand ils sont tranchés, on ne joue pas un jeu. On est vraiment authentique. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'être, authentique le plus possible. Et après, ce que les gens pensent, ben voilà, ils pensent qu'ils ont envie de penser et je ne vais pas changer ma façon de faire ou de penser ou d'être en tant qu'entraîneur ou consultant pour satisfaire ceux qui ne sont pas satisfaits. Au fond, c'est pas très grave, Walid.
Avant de parler de Pierre Sage, notamment, on parle de Luis Enrique aussi. Détour par la salle Coubertin, le handball, Ligue des Champions, PSG Barcelone avec Edgar Grelot. Salut Edgar.
Salut Nico, salut à tous. Ouais, ça se passe très très bien pour les Parisiens. Pour l'instant, 19 minutes de jeu, 9 à 7 pour le PSG handball face au Barça dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ça nous rappelle quelque chose par rapport au foot. Et justement, il y a trois footeux dans les tribunes. Carlos Soler, Arnaud Tenas et Marco Asensio, voilà, qui regardent ce match, qui regardent leurs homologues du hand qui pour l'instant s'imposent face au Barça 9 à 7 après 19 minutes de jeu.
Je vais que Eric qui attend depuis un moment, et puis après on fermera la page avenir d'Habib Bey. Salut Eric.
Tous.
C'est un supporter du PSG. Tu avais une question à poser à Habib, bienvenue.
Oui. Bah déjà, félicitations à lui pour tout ce qu'il fait, parce que j'ai passé ma jeunesse à le siffler. Je passe ma vie d'adulte à apprécier ses commentaires. Il fait remonter dans un championnat qui va être beaucoup plus visible, un club mythique de la région parisienne, parce que le Red Star, c'est mythique, malgré que je sois supporter du PSG. Et moi, j'avais une petite question juste pour le taquiner comme ça, par rapport à tous les bruits qui courent. Si un jour on lui propose le PSG, il réagit comment ?
Ouh là là. Ouais, déjà, merci pour tous ces compliments et bonsoir à toi. Je pense qu'en fait, c'est une question difficile à aborder. Pour deux raisons, c'est ce que je vous ai dit, c'est que je pense qu'il y a des clubs aujourd'hui qui sont très difficiles de refuser. Et c'est pas parce que tu as un attachement à l'OM qu'aujourd'hui tu vas dire catégoriquement, aujourd'hui dire je ne peux pas entraîner le PSG. Déjà, si un jour,
c'est que tout ira bien.
Le PSG s'intéresse à mon profil, j'aurais envie de te dire, avant de prendre ma décision, je te dirai, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Mais je veux même pas en fait aller dans cette logique-là parce que sincèrement, je fais pas partie de cette caste aujourd'hui et il va falloir que je travaille énormément pour aujourd'hui, un jour, espérer avoir l'intérêt d'un club comme le Paris Saint-Germain. J'ai trop de respect pour les gens qui y travaillent aujourd'hui et surtout le niveau où est le PSG aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste compliqué lorsque tu as mon histoire, mon passé, d'entraîner le Paris Saint-Germain. Te dire que c'est impossible, en fait, je suis incapable de te le dire aujourd'hui, ça serait te mentir. Mais par contre, il est clair que tout le monde sait aujourd'hui que mon club de cœur est l'Olympique de Marseille. Tout le monde sait mon attachement à ce club-là. Et je pense qu'il est très difficile, à un moment donné, de mentir aux gens et de mettre dans un rôle. Je prends l'exemple de Christophe Galtier, il a tout essayé pour se détacher un petit peu de cette identité, et au fond, il a jamais réussi. On lui a toujours reproché ça, on l'a toujours ramené à ça, avec tous les efforts qu'il a fait, et je pense que ça reste un mariage qui a été raté, mais pour plein de raisons. Et je pense que son passé, cette identité, lui a collé à la peau, et qu'il a été difficile pour lui, quoi qu'il ait fait, de basculer en fait dans cette logique où les gens vont l'apprécier. Donc je pense que c'est des éléments que tu dois quand même intégrer dans ta réflexion quand on te propose un club comme le Paris Saint-Germain. Maintenant, je peux pas te dire impossible à 100%, mais c'est très difficile.
De toute façon, c'est non seulement c'est juste ce que dit Habib, mais en plus c'est normal. Il y a un moment, si on veut se dire un grand pays de football, il y a un moment. Je suis désolé, Rui Costa, il ira pas à Porto. C'est comme ça. Steven Gerrard, il va pas aller entraîner Everton. Sauf cataclysme, c'est possible. Ça reste du football, mais je ne le crois pas.
Après, c'est différent parce qu'ils sont nés dans la ville.
Christophe Galtier, il est né dans la ville.
Oui, voilà. Moi, aujourd'hui, je préfère, je suis né à Paris.
Non, mais je veux dire qu'on lui reproche
formé au Paris Saint-Germain.
T'as fait une formation au PSG.
Oui, je suis très fier de ma formation au Paris Saint-Germain.
Hein.
Mais voilà.
Une histoire différente.
Christophe Galtier, qu'on lui reproche.
Moi, c'est un attachement, en fait, d'enfant, qui a été marqué par les années 90 de l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai grandi avec ça.
Accentué par tes 4 saisons.
Voilà, et ensuite, j'ai été 4 ans à l'OM.
Moi, je parlais plus pour Christophe Galtier. Je ne lui reproche pas du tout son choix. Comme tu as dit, pour d'autres choses, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, il a voulu y aller. Je comprends que l'entraîneur ait envie d'y aller. Surtout, c'était une belle opportunité. Mais par contre, je ne reproche pas les gens qui lui reprochent.
Ouais, bien sûr. Okay.
C'est aussi un fait.
Merci Eric d'avoir fait le 32-16.
Merci Eric.
Bonsoir à toi, à très vite sur RMC. Alors Habib, je le disais, t'as eu comme adjoint Pierre Sage pendant un an et demi au Red Star avant qu'il parte diriger le centre de formation de l'Olympique Lyonnais en début de saison, avant de devenir l'entraîneur de l'OL avec le succès qu'on connaît. Comment t'observes sa réussite justement? Parce que, je suppose une question journaliste. Il y a de la fierté, est-ce qu'il y a un peu de jalousie aussi?
Ah non, il y a pas du tout de jalousie, hein, vraiment pas. Mes rapports avec Pierre étaient magnifiques quand il était mon adjoint. C'est quelqu'un qui m'a rejoint en janvier lorsque j'ai repris l'équipe. Et surtout, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté au quotidien dans mon travail, parce qu'il est arrivé avec une maîtrise, en tout cas, de tout ce qui était pour moi une sensibilité importante dans ma méthodologie d'entraînement. Il l'a structuré aussi, il m'a fait gagner énormément de temps parce qu'il entraînait depuis très longtemps, il maîtrisait beaucoup de choses, la périodisation tactique, le jeu de position, tous ces éléments-là dont on parle aujourd'hui. Il m'a fait gagner énormément de temps, et en mars de l'année où il part, donc l'année dernière, il vient me voir, on était à Villefranche, et il me dit: écoute Habib, j'ai une proposition en fait pour revenir en fait au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et il dit: c'est mon ADN, c'est la formation, c'est ce que j'aime. Et donc je lui ai dit: Pierre, moi aujourd'hui, on n'a pas signé un pacte pour travailler ensemble pendant 10 ans. On a fait notre parcours, et si aujourd'hui ta sensibilité c'est de repartir à la formation dans un club qu'il aime et où il était avant de venir avec moi, je lui ai dit: je suis très très content. Et maintenant il est propulsé numéro 1 dans une équipe où au départ il n'était pas prêt pour ça. Il a pris l'équipe et puis il a eu de très très bons résultats. Et il vit son métier d'entraîneur avec passion. J'échange avec lui toutes les semaines. On a un groupe qui s'appelle Red Star All Star, où il nous envoie des messages à chaque match, où nous on lui envoie des messages pour l'encourager dans ce qu'il fait. Et on a de très très bonnes relations encore avec Pierre, et je suis très très content. Il n'y a aucune jalousie, parce que je pars du principe que les destins des gens sont magnifiques, et son destin, lui, il est exceptionnel. Il est hors norme. Il s'est construit tout seul à travers des aventures multiples où il a vu tout. Du métier d'entraîneur jusqu'à directeur sportif, jusqu'à entraîner des gamins, et aujourd'hui il est entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc lorsque vous êtes
grande humilité.
Bah oui, quand vous êtes dans une authenticité de rapport comme nous l'avons vécu ensemble, c'est-à-dire qu'il a été mon adjoint, je peux que le féliciter de ce qu'il fait et d'être très content de ce qu'il vit.
Tu as dit récemment de lui: sa théorisation du football est complexe, mais le rendu aux joueurs est simple, et c'est pour ça qu'il l'aime beaucoup, les joueurs, hein, parce que tout ce qu'il fait est très clair.
Exactement.
Comment tu définis sa théorisation du football?
Mais en fait, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a poussé à l'extrême la théorisation du football, mais en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'il a tout pensé sur la méthodologie d'entraînement, sur comment faire jouer ses équipes, sur les principes de jeu, sur tous ces éléments-là. Et l'avantage qu'il a, c'est que moi, quand je vais le chercher, quand on se voit 1h30, au bout d'une heure et demie, je devais voir 2 autres adjoints derrière, et j'ai dit à mes agents: stop, j'ai trouvé celui que je voulais. Et quand on commence à travailler ensemble, on a des discussions, et des discussions qui sont complexes dans l'approche du foot, c'est-à-dire dans ce que lui pense, dans ce que moi je pense. Et à un moment donné, il a fallu qu'on simplifie tout ça. Et ce que j'ai observé de lui en tant qu'adjoint avec les joueurs, c'est que je me suis dit au départ: bon, maintenant il faut qu'on voit comment on retransmet ça aux joueurs. Et j'ai trouvé ça d'une extrême simplicité. Quand vous passez du bureau au terrain, ce qu'il faut, c'est que les joueurs, ça soit clair. Si vous commencez à leur monter un truc où les joueurs ils vont se dire, voilà, c'est une équation difficile à résoudre, l'entraîneur doit faire en sorte que le message soit très clair pour les joueurs. Et pour moi, la grande qualité de Pierre, c'est que malgré sa théorisation à l'extrême, c'est-à-dire quand vous parlez de foot avec lui, vous voyez dans ses conférences de presse, il utilise des mots que parfois vous vous dites, oh, j'ai jamais entendu un entraîneur parler de process, de situation,
de production.
Et par contre, ce que vous voyez du jeu lyonnais au départ, quand il reprend l'équipe, il les a remis dans un cadre simple.
Ça paraît simple en fait.
Où chacun était à son poste, où chacun savait ce qu'il avait à faire et il a eu des résultats. Et petit à petit, je pense que vous vous en rendez compte, il est en train de poser ses bases de son jeu, petit à petit, avec beaucoup d'intelligence, avec de temps en temps des petites rechutes, mais ça c'est le lot de tous les jeunes entraîneurs qui arrivent et qui expérimentent le très haut niveau et je pense qu'il le vit. Mais pour discuter avec lui, je trouve que sa grande qualité, ça a été la phrase que j'ai dit. Et je trouve que mes joueurs, en tout cas lorsqu'ils s'exprimaient avec les joueurs, c'était toujours très très simple.
Oui, il y a de l'empathie aussi.
Comment on gère quand on est numéro un comme ça? Parce que on le sait, le staff est très très important. Ouais. Et tu t'entoures très très bien. Mm-hmm. Il y a Pierre Sage qui est parti à l'Olympique Lyonnais, mais il y a aussi Sébastien Bichard qui est parti à Clermont pour être numéro un
bis. Autre adjoint exactement.
Avec Gastien notamment, un autre adjoint que vous avez récupéré cet été, qui a fait du bon boulot avec toi. Comment on fait en fait? Est-ce qu'il y a le mythe? On avait reçu Julien Stéphan avec les numéros deux qui peuvent savonner la planche ou tout ce qui peut se passer autour. Comment on fait aujourd'hui quand on voit deux numéros 2 partir dans des très très gros clubs sans forcément avoir cette ambition là au départ? Est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on se dit le prochain, comment ça va se passer? Est-ce qu'on doit toujours bien s'entourer? Parce que c'est aussi la force du Red Star et ta force, c'est d'avoir eu un staff très très compétent, je pense. Parle-nous un petit peu de la
réalité, c'est que quand Pierre s'en va, on décide d'aller chercher un adjoint qui a un profil différent. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à Reda à ce moment-là, et aussi à mes agents qui Classico, qui ont participé à la recherche, en tout cas de mon adjoint numéro un, je dis je veux un numéro un qui a le BEPF et qui soit en capacité de prendre l'équipe comme moi. Pour deux raisons. Parce que je sais que cette personne-là va avoir la capacité d'être au même niveau de diplôme que moi, le même niveau d'ambition, parce que Sébastien, quand je vais le chercher, son ambition, c'est d'être numéro un. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dois sortir
du
confort.
C'est rare, ça.
Ouais.
C'est très rare.
Oui. C'est très important de sortir du confort. Et surtout, ce que ne doit pas vivre un coach, c'est la peur des gens avec qui il travaille.
Ça, c'est sûr.
Moi, aujourd'hui, j'ai vu Sébastien pendant une heure et demie et je me suis dit, t'es la personne avec qui je veux travailler parce qu'on a eu ce feeling-là. Et on s'est dit, au fond, si demain, il est amené à avoir une opportunité meilleure que moi, ou moi, parce qu'il est dans le club aujourd'hui, ou demain, moi, ça marche pas. En fait, c'est la réalité du métier dans lequel on est. Moi, j'ai pris la place de quelqu'un qui était là avant moi. Et en fait, c'est le rôle aujourd'hui que vivent des entraîneurs qui sont en attente de poste, des entraîneurs qui sont promus comme moi, je l'ai été. J'étais adjoint, je suis passé numéro un. Et si t'as peur de ça, à un moment donné, t'es dans la paranoïa et tu prends que des béni oui ou des poseurs de coupelles. Moi, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir un staff proactif, hyper compétent. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là me font gagner du temps. Et on le voit aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de moi, mais je le dis, j'ai un staff de grande, grande qualité. Sébastien est parti, j'ai Yann Cavezza avec moi qui était mon adjoint numéro 2, qui est maintenant adjoint numéro 1. On n'a pas remplacé Sébastien, on a décidé d'avancer comme ça.
Et c'est important d'avoir un tampon, d'avoir des confrontations entre le numéro 1.
C'est très important parce que c'est en fait, ils te challengent au quotidien. Ils viennent pas te dire t'as tort ou t'as raison. C'est qu'à un moment donné, dans les discussions qu'on a, ces discussions, elles sont riches. Ils amènent des éléments. Et la réalité de notre métier, c'est que pour moi, on n'a pas le monopole de la réflexion. Par contre, on a le monopole de la décision finale. Dans cette décision finale, c'est le numéro un qui la prend, qui va l'assumer et qui doit faire en sorte que toute son équipe, je parle joueur et staff, pas forcément au fond de dire à la fin, vas-y, hein, si tu vas et si on se plante, c'est toi qui auras décidé. C'est de dire, ok, on a une réflexion globale. On a, à un moment donné, vu le panel de toutes les décisions, toutes les réflexions, et on prend une décision et on va tous dedans. Et c'est ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette envie, capacité d'être numéro un. Et Seb, quand il part, il vient et me dit, écoute, Habib, j'ai été contacté par Clermont. Et je lui dis, si t'attends de ma part mon aval pour partir, je te dis, vas-y. C'est l'opportunité d'une vie. Quand t'es club de national, tu ne peux pas retenir quelqu'un qui peut aller en Ligue 1. C'était pas le cas avec Pierre parce qu'il avait décidé de partir, mais avec Seb, la question s'est posée. Je vais être très clair. Le club ne voulait pas qu'il parte. Je suis allé voir mon président, mon directeur sportif. On s'est assis tous les trois et j'ai dit, laissez-le partir. Et il y avait une crainte parce qu'on était dans un moment où l'équipe performait. Il y avait une crainte de déstabiliser le système. Et moi, j'ai dit à mon président, s'il vous plaît, laissez-le partir.
Et tu le retrouveras peut-être en Ligue 2 la saison prochaine. Peut-être en Ligue 2 la saison prochaine.
Mais c'est quelqu'un de très compétent.
Sébastien Bichara, clairement. Kevin, c'est une remarque.
Juste pour finir, en fait, un entraîneur ou un adjoint, c'est quelqu'un, pas forcément qui te donne les réponses, mais c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions aussi ou qui les pose au numéro 1.
Exactement. Et qui va peut-être se poser des questions que le numéro 1 ne se pose pas.
Exactement. Reste avec nous. La suite et avec Abitbay. Dans Génération After sur RMC avec Jennifer, avec Walid, Kevin également. Tiens, on va parler de la Ligue 1. Tu me diras dans un instant quelle est l'équipe de Ligue 1 qui te procure le plus de plaisir quand tu la regardes jouer. Ou les équipes de Ligue 1. On va parler de Luis Enrique, de son travail aussi, beaucoup de questions. C'est incroyable l'obsession des gens pour Faris Moumbagna sur le chat aussi, on nous dit. Je veux savoir ce qu'Abib pense de Faris Moumbagna. C'est devenu le joueur le plus commenté de la Ligue 1.
Ça commence à devenir gênant, non?
C'est étrange. Allez, reste avec nous, c'est l'after sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Delevitch avec Kevin Diaz, vous voulez déjà et notre invité Habib Bey, quelques minutes encore avec toi Habib. D'abord, rapide détour par le handball, Ligue des Champions, PSG Barcelone, Edgar Grelot.
Il reste une minute dans cette première période, 13-11 pour le PSG face au Barça, le PSG qui a mené quasiment du début jusqu'à la fin de cette première période, 13-11 donc pour les Parisiens.
Alors Habib, devant quelle équipe de Ligue 1 tu prends plus de plaisir là, quand tu te poses chez toi, tu mates un match un dimanche soir ou un samedi après-midi, quelle est l'équipe dans son développement, ouais, d'idées, de projets?
J'aime beaucoup ce que fait Fonseca. Ouais. Ouais. Je trouve que Fonseca fait un travail exceptionnel avec cette équipe de Lille. Il a osé lancer de très jeunes joueurs qui sont aujourd'hui des jeunes joueurs reconnus en Europe, identifiés par les très gros clubs. Je trouve que il s'est parfois cassé les dents dans cette outrance à relancer et il n'a pas lâché son projet de jeu. Je me rappelle d'un match à Rennes où ils prennent un but au bout de 2-3 minutes à Rennes sur une sortie de balle avec Juro qui perd le ballon et ils sont restés dans leur... J'admire en fait, et Walid le sait, j'admire les entraîneurs qui ont des idées de jeu et qui restent dans ces idées de jeu tout en amenant toujours de l'adaptabilité, des variations. Walid le sait, je joue avec 5 joueurs offensifs qui fixent la ligne défensive et on était convaincus que ça fonctionnerait dans cette division. Et je pense que Fonseca, à l'échelle de la Ligue 1, où de temps en temps les gens disaient non, ça marchera pas en Ligue 1, il peut pas faire comme ça, aujourd'hui ça prouve qu'il a prouvé, d'ailleurs dans la double confrontation face à Villa, pour moi il doit passer. Chapeau. C'est une équipe qui me séduit énormément parce qu'on sent la patte de l'entraîneur et cette équipe, quand on la regarde à l'image de ce qu'elle a fait en Coupe d'Europe, elle procure des émotions. Et ce qui est beau, c'est des équipes qui, à travers des projets de jeu, d'une identité de jeu, vous procurent des émotions. Il y en a beaucoup aujourd'hui en Europe sur lesquels on est sensible. C'est aussi une sensibilité liée au football. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ce qu'a fait le Real. Il y a des gens qui ont adoré ce qu'ont fait le Real face à City. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Fonseca. J'aime également beaucoup ce que peut faire Luis Enrique lorsque on estime que les joueurs sont à leur poste avec ce qu'il peut faire en termes de cohérence, l'innovation. Moi, je trouve que c'est un entraîneur innovant, perturbant,
déstabilisant,
mais qui te laisse pas indifférent. Et pour moi, ça, c'est la patte d'un entraîneur. Il faut que tu puisses voir tous ces éléments-là. Mais Fonseca est ce que fait Monaco là depuis maintenant quelques mois. C'est une équipe qui est très offensive et je trouve que... Mais ils ont l'effectif pour. C'est pour ça que je dis Fonseca, parce qu'à mon sens, il n'a pas l'effectif au départ pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il a développé des joueurs de grande qualité.
Il y a d'autres coachs en Europe que tu regardes beaucoup. Parce que Pep Guardiola disait que être un entraîneur, c'est piquer, voler des idées. Mmh. Est-ce que toi, dans ta conception du jeu au Red Star, t'as un ou deux coachs qui t'a apporté cette année ou l'année dernière?
Moi, je suis ultra fan de Guardiola. Tout le monde le sait, j'en parle beaucoup. Je suis ultra fan de Guardiola par cette innovation constante de poser des problèmes à l'adversaire et d'utiliser toujours des armes qu'il identifie pour faire mal aux adversaires.
Lui, t'as jamais réussi à échanger avec lui au bord d'un terrain?
Non, malheureusement jamais. Il y a Samir Nasri qui m'a proposé, il m'a dit si tu veux le faire, j'appellerai, je t'emmènerai, on pourra le faire et ça serait un grand moment pour moi. Mais je pense que tu ne peux pas avoir qu'une sensibilité. Il faut que tu essayes de voir tout ce qui fonctionne, l'évolution du foot et tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, tu vas toi incarner en fait, peut-être en quelque sorte les idées des autres. C'est-à-dire tu ne peux pas dire... Il fait ça, je fais ça. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois comprendre quel est ton effectif. Et il y a plein de choses, et je pense que Walid l'a identifié, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, moi, je demande à mes 2-6 d'avoir un étagement vertical. C'est des choses que j'ai aussi remarquées au très très haut niveau pour ouvrir les positions sur mes demi-couloirs, ce qu'on appelle les half space. Et pour toucher mes 5 positions offensives, il fallait que j'ouvre des voies. Et à un moment donné, dans le développement de notre projet de jeu, je me disais, mais comment je peux faire pour ouvrir ces voies constantes pour mon gardien, pour mes 3 centraux? Et puis à un moment donné, je vais commenter un match de très haut niveau et je vois cette logique en fait de permutation des 2-6 avec en fait 2 étagements en verticaux et je me dis c'est ça. C'est exactement en fait ce qu'on doit essayer de faire pour aller chercher ces demi-couloirs. Et après, t'essayes toi de le ramener à ton équipe. Donc, tu vois l'évolution du foot. Donc, je suis très sensible à Pep Guardiola. Ça, c'est une réalité. Mais pas que. Et je vous dis, il y a plein de styles de jeu aujourd'hui. Tu prends ce que fait, par exemple, Peter Bosch avec le PSV Eindhoven. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on a regardé les datas. Et quand on compare aujourd'hui ce qu'on fait au Red Star, et c'est plus nous qui faisons la même chose que le PSV, et pas la PSV qui fait la même chose que nous, mais on a vraiment sur les graphiques deux équipes qui superposent. Donc, ça m'a intrigué. Et puis, j'ai analysé le Bayer Leverkusen toute l'année. Donc, en fait, j'ai regardé les matchs du Bayer Leverkusen.
T'as du goût, hein.
J'ai eu la chance d'avoir aussi les plans tactiques. Donc, on m'envoyait des plans tactiques avoir. Oui. J'ai récupéré les plans tactiques. D'ailleurs, c'était Sébastien Bichard qui m'avait récupéré ces plans-là. Et ça me permettait de comprendre comment cette équipe faisait pour avoir deux pistons qui marquaient plus de 10 buts. Je me dis Grimaldo et
Frimpong.
Je me dis, c'est pas possible. Dans un système comme celui-ci, alors c'est un peu différent de ce qu'on peut faire, mais ils jouent dans un système à 3 avec aussi des situations de deux excentrés, en tout cas deux pistons qui rentrent très fort à l'intérieur et qui sont très souvent à la finalité des actions. Et moi, comme je joue dans ce système-là, j'ai essayé de comprendre comment ils faisaient pour avoir ces deux positions-là aussi présentes dans son projet de jeu. Donc je suis allé voir, j'ai regardé. Et c'est très intéressant, en fait, de regarder comment fonctionnent ces entraîneurs-là à travers la pression, l'occupation du terrain, puis après, la pression haute.
Puis, bon, alors là, on n'aura peut-être pas le temps, mais ce sera pour une autre fois. Ce sera très intéressant d'échanger avec toi parce que t'es dans une projection et en plus, tu dis que tu regardes ce qu'il fait. Pourquoi Peter Bosz n'a pas fonctionné à Lyon?
Oui.
Parce que ça, c'est un truc auquel tu vas être confronté. Et c'est un truc qu'on a, moi, j'ai parlé dès le début, dès l'arrivée de Peter Bosz à Lyon, de dire, est-ce que ça va passer avec, encore une fois, c'est un long débat, la mentalité qu'on peut retrouver dans nos vestiaires qui n'est pas forcément la même dans certains autres pays.
Après, il y a la logique du, alors, il parlait français, hein, Peter Bosz, mais il y a la logique du langage, de la connaissance du championnat, du niveau aussi du championnat,
oui, mais le formatage du joueur.
Mais par contre, d'amener ces joueurs-là à répondre à une identité de jeu et à un projet bien établi, parce que quand tu regardes le PSV Eindhoven, c'est très établi, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Quand tu regardes le Bayer Leverkusen, c'est très très clair, et Walid le sait, avec le Red Star, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tout codifier. C'est-à-dire que chaque joueur de notre effectif soit en quelque sorte connecté à exactement ce qu'on veut faire dans nos positions de sortie de balle. C'est très établi et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, il a été un peu plus prévisible parce qu'à un moment donné, on nous a collé du 1 contre 1 sur 5 positions offensives. Il a fallu qu'on revoie notre copie. On a essayé de remettre un joueur supplémentaire au milieu. Comme le disait Walid, on a fait du 3-3-4 pour essayer d'attirer une position en plus dans le cœur du jeu. Donc tu t'adaptes en permanence. Mais ce qui est bien et ce qui est important chez tous ces entraîneurs dont on parle aujourd'hui, et notamment Fonseca pour revenir à lui, c'est que quand tu regardes leurs équipes, il y a une identité claire, un projet de jeu qui est clair, des idées de jeu qui sont claires, et surtout il y a l'adhésion des joueurs. Parce que pour finir, je vais finir là-dessus, on monte en Ligue 2 parce qu'on a des joueurs de grande qualité. Et ne jamais oublier une chose, les entraîneurs parlent de leur projet de jeu, décrivent leur projet de jeu, mais il y a un seul moteur dans tout ça, ce sont les joueurs. Et ça, il faut les valoriser. Et moi aujourd'hui, comprends la force de mon effectif à travers la qualité de jeu qu'on a pu produire, mais parce que j'ai eu des joueurs qui ont adhéré et qui ont fait une saison fantastique.
Et nous, ce qu'on kiffe, c'est qu'on a une nouvelle génération d'entraîneurs. Hein. On parle de Franck Hez, de Pierre Sage, de Régis Lebris, Habib Bey, qui parle foot, en fait, que ce soit en conférence de presse ou dans les médias. Et pour nous, c'est hyper intéressant. Bon, il y a quantité de messages hyper positifs. Hein. C'est une dinguerie. Habib, on pourrait écouter des heures. Malheureusement, on va devoir libérer Habib.
Il part déjà.
Question.
J'avais l'objectif des deux heures.
Sympa, il a fait une prolongation. Habib, c'est important. On a fait un débat. Est-ce que Marseille peut être champion d'Europe?
C'est bien sûr que Marseille peut être champion d'Europe, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a un élément qui est très important. Très, très important. Il y a 20 ans, en 2004, Monaco était en finale de Ligue des Champions et l'OM était finale d'Europa League. Monaco perd la finale de la Ligue des Champions contre Porto. Nous, on perd contre Valence. Donc, il faut espérer cette année que le PSG aille en finale de Ligue des Champions, que l'OM aille en finale d'Europa League et que cette fois-ci, 20 ans après, deux équipes
françaises ramènent le trophée. Il y avait un entraîneur intérimaire. José Anigo qui avait remplacé Perrin.
Exactement.
Et qui avait lancé la carrière vraiment de Habib à l'Olympique de Marseille.
Déçu. On souhaite tous ici et que tout le monde l'entende, les consultants les journalistes du monde entier, qu'il faut que le football français brille et donc il faut que deux équipes françaises gagnent une Coupe d'Europe, peu importe que ce soit Marseille, PSG, s'il vous plaît. Acceptez le fait qu'à un moment donné, ça fait briller le football français et on doit être derrière tous les clubs français en Coupe d'Europe. Et on en a deux qui nous représentent aujourd'hui. et il faut qu'on soit derrière eux.
Et à l'époque, il y avait un attaquant qui fonctionnait bien aussi à l'OM.
Ouais, on avait un certain Didier Drogba qui a fait une très très grande carrière derrière. Il nous a lâché au bout d'un an, mais il le méritait.
Merci Habib, c'était un plaisir de t'avoir. On te souhaite le meilleur pour la suite, évidemment. On va te suivre comme Walid le fait quasiment quotidiennement.
Au Red Star l'an prochain.
Au Red Star. Lui sera encore à Bauer, c'est sûr.
Ah bah oui, quoi qu'il arrive.
Voilà. Parce que le Red Star,
c'est à Bauer, je suis un enfant du 93, moi. Je peux pas les lâcher.
Merci Habib. Bonne soirée à toi, c'est un plaisir de t'accueillir. À très vite sur RMC. Dans un instant, la suite, on va parler de Kylian Mbappé, car oui, Walid a retrouvé son Mbappé. Reste avec nous et avec Jennifer Mendelevitch et Kemidia. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Jennifer Mendelevitch. On s'est régalé à écouter Habib Bey aussi. On lui a posé des questions à l'entraîneur du Red Star. Vous êtes nombreux à commenter son passage dans Génération After. Vous pourrez écouter bien sûr le podcast qui sera en ligne dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous retenez, tiens, Jen, toi? Comment tu vois son évolution, son avenir, Habib Bey?
Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Donc je sais que... Il avait dans l'idée depuis des années, enfin, il visualisait déjà ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, et ça il y a très longtemps. Et moi, je suis pour que justement on sorte les vieillards de l'UNECATEF et que on ait une nouvelle génération de coachs qui ont des idées.
Elle arrive, non ?
Bah, c'est bien. Franchement, et qu'on ait des gens qui se nourrissent de ce qui se fait ailleurs, qui soient ambitieux et qui aient leurs propres idées. Donc, je trouve ça bien. Maintenant, je suis curieuse de voir la suite. Maintenant,
le plus dur commence presque.
Oui. Ouais, mais beaucoup de gens disent attention, c'est du national. Mais je pense que les gens sous-estiment vraiment le niveau du national. Bien. Personne ne sait à quel point c'est difficile pour un joueur d'en sortir et d'un entraîneur de monter. Tous les ans, on se rend compte que c'est un championnat compliqué. Il y a des équipes qui se foirent totalement sur le recrutement parce qu'elles n'ont pas conscience du type de joueur qu'il faut pour monter du national en Ligue 2. Ça devient un vrai révélateur de jeunes joueurs aussi. Il faut savoir que même les clubs étrangers maintenant vont voir le national, ce qu'ils n'allaient pas faire avant. C'est pas étonnant de voir des clubs étrangers suivre. Alors, pas tous les clubs, mais en tout cas de s'y intéresser beaucoup parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir faire des coups et que le niveau finalement entre les vrais bons clubs de national et du bas de tableau de Ligue 2, bah il y a pas une grosse différence, ouais. Et que il peut y avoir dans le lot. Alors en général, un joueur de national qui a 26-27 ans, c'est pas sur ce genre de joueurs qu'ils vont voir, mais des jeunes joueurs qui commencent à jouer en national, c'est des profils super intéressants parce qu'ils sont confrontés au football d'adultes, à un football dur, et ça peut être des bonnes pioches pour des clubs.
Non, mais c'est vrai ce que dit Jen, parce que très rapidement, mais on a été voir récemment Red Star Dijon où il y avait Ryan Messi qui était le Ryan Messi qui fait un peu sensation, qui a 16 ans, franco-camerounais. Et moi, j'ai vu notamment autour de nous des recruteurs de très très gros clubs. Et à Dijon, comme ça joue très très jeune, là sur la fin de saison, des joueurs de 16, 18, 19, 20 ans, comme vient de le dire Jen, il y a des opportunités à faire à très très faible coût. On rappelle que Guedjémis, joueur de Rouen, là en janvier, a signé à Frosinone pour 300 000 euros, que des joueurs comme Nel El Ainaoui, l'année dernière, qui était capitaine de Nancy, aujourd'hui a été à Lens et il est titulaire à Lens, et c'est un très très beau coup de la part de Lens. Il y a Alex Dao de Sochaux qui va sûrement arriver à Lens, c'est dans les tuyaux, et c'est un jeune joueur, très jeune joueur de Sochaux qui était très très courtisé. Donc ouais, moi avec le Red Star, j'ai pu voir, et au-delà des coachs, au-delà des collectifs, des joueurs qui peuvent être très très intéressants et qui peuvent faire ce palier national Ligue 1 très rapidement, voire ailleurs.
De toute façon, il y a aujourd'hui une professionnalisation claire des clubs de National, mais même des clubs de National 2, et pour certains des clubs de National 3. On le voit, je le répète à chaque fois, chaque année, en hiver, au moment de la Coupe de France, quand on parle de surprise, aujourd'hui, sur un match de 90 minutes, on voit bien que même une équipe comme Thionville, qui est leader de son groupe de National 3, perd 1-0 à Saint-Symphorien dans un stade de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, c'est vrai que notre football, quand même, même si en Ligue 1, souvent on râle, mais que ce soit en Ligue 2 et surtout en National, où il y a du coup beaucoup de descentes de clubs de Ligue 2 comme Nancy, etc., des gros clubs historiques qui sont aujourd'hui en National et certains même qui sont en dessous, malheureusement pour eux. Mais voilà, le niveau, il est très très resserré et il faut bien travailler.
Et c'est un bon laboratoire à joueurs et à coach, parce que là on parle d'Habib Bey, mais je répète, hein, le coach de Rouen, Dornano, fait du très très bon boulot. Le Mignon à Concarneau, Poirier à Martigues, dont on a reçu et qu'on va peut-être recevoir parce que c'est un entraîneur très très pertinent. C'est des entraîneurs, Mokedem à Orléans, c'est des entraîneurs qui risquent d'aller là-haut en Ligue 2, voire en Ligue 1 sur les prochaines années. En tout cas, moi, j'appelle ça de mes voeux parce que c'est des entraîneurs qui ont une vraie vraie réflexion.
Parlons d'un autre jeune joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé, hier, qui a marqué son 43e but en 43 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. C'est déjà la saison la plus prolifique de sa carrière. Mais au-delà de ses stats, mon cher Walid, tu as aimé l'attitude. Avis de Walid, ça, c'est mon Mbappé.
C'est Rudy. Et quand on voit le Rudy, les entraînements de Rudy, c'est pas possible. C'est pas moi, ça.
Il y a un montage, on est d'accord. Ouais, je pense que ta voix a été trafiquée.
C'est une IA.
Si c'est toi.
Une fois,
c'est une IA pour
les intelligences artificielles, encore une fois.
C'est comme la remède, s'il vous plaît.
Mais tu voulais dire quoi?
Non, en fait, Jimmy Juninho, en fait, qui dit Rudy Garcia.
Ah, Rudy.
On peut me la remettre ou pas, s'il vous plaît?
C'est Rudy. Et quand on voit le Rudy, les entraînements de Rudy, c'est pas possible.
Ouais, c'est pas mal. Peut mieux faire.
Non,
c'est pas mal. Rudy,
c'est Rudy.
Parce qu'en fait, une fois, il avait été chez Rotten sans flamme et il avait parlé de Rudy Garcia.
C'est Rudy.
Il dit Rudy.
Qu'il avait découpé.
Oui, il avait découpé.
Bon, alors, pourquoi tu as retrouvé, en tout cas, pourquoi tu veux parler de Mbappé ce soir?
Non, je voulais parler du stade de Reims, mais apparemment, dans la rédaction de.
Pas du tout!
De Génération After, ça a pas.
Ça n'a pas pris,
ouais,
si,
ça n'a pas pris. Donc, j'ai voulu parler. Voilà, je vais parler de Kylian Mbappé. On aura le temps de reparler de Reims à la fin de la saison et de faire un vrai, vrai bilan. Ouais, je voulais parler d'Mbappé parce que on dit beaucoup que Walid, il fait des mea culpa, que Walid, c'est un anti-Mbappé. Et je voulais dire que le Mbappé que j'ai vu hier contre Lorient, c'est le Mbappé que j'aime. Le Mbappé disponible, le Mbappé qui a la bonne attitude. Je l'ai vu faire 3-4 retours défensifs, même des tacles désespérés, en première mi-temps, après des pertes de balles. Je l'ai vu altruiste. Je l'ai vu faire briller ses coéquipiers.
Attends, je vais chercher ta veste.
Non, je comprends parce que je la retourne. Je répète que quand il est comme ça, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'attends de Kylian Mbappé, et qu'on a raison de le critiquer quand il ne l'est pas, et quand il a un body language catastrophique sur le terrain, et quand il n'est pas pertinent ou positif pour l'équipe, et au-delà des statistiques, parce qu'on sait très très bien que Kylian Mbappé aujourd'hui, la Ligue 1 est bien en dessous de ses qualités et qu'il est bien au-dessus de tout ça, c'est le contenu global, pas jouer que 10 minutes dans la rencontre parce que je prends le ballon et je peux faire mal face à Lorient. De la première à la dernière minute, je l'ai trouvé très très concerné, vraiment, et j'espère que sur la fin de saison, et ben peut-être qu'avec le turnover de Luis Enrique, le fait de ne pas jouer tous les matchs, et ben il sera frais pour jouer à 100% toutes les dernières rencontres qu'il pourra participer avec le PSG. Et je voulais le dire, souvent je suis critique avec Kylian Mbappé sur cette antenne parce que peu le font, parce que aussi peu le font, mais ce que j'ai vu hier, c'est très très bien.
Bon, je connais même pas la vie de Jennifer depuis le temps qu'on te connaît sur le joueur, l'homme Kylian Mbappé. Comment tu juges son évolution?
Je pense qu'il y a deux grilles de lecture. Il y a, si on regarde le joueur pur qu'il est et ce qu'il a montré, bon bah il y a pas de débat possible sur la qualité du joueur. Maintenant, pour moi, il y a le problème du joueur qui est plus grand que son club, et malheureusement il y a beaucoup de choses qui découlent de ça, et on a un joueur qui est parfois en demi-teinte parce qu'il sait qu'il peut le faire, on a un joueur qui a demandé des choses parce qu'il sait qu'il peut le faire. Il y a un problème. Moi, je suis extrêmement curieuse de voir Kylian Mbappé dans un club où ce sera pas lui le patron, en tout cas pas lui le patron tout de suite, où il va devoir se plier à plus de choses, où on satisfera peut-être pas toutes ses exigences immédiatement, et où surtout il y aura des joueurs qui seront du même niveau, du même standing, des stars, et c'est vraiment, je suis curieuse de ça. Je dis pas du tout que ça va être compliqué pour lui, parce que il a aussi prouvé que c'était un joueur très intelligent, que sa com il la maîtrise très bien, et je pense qu'il est préparé à ça. Mais c'est vraiment moi ce que j'attends de voir, parce que je vais pas appeler ça des dérives, mais par exemple ce qu'on a vu en début de saison, je reste pas, on me met sur le banc en faisant un semblant d'autorité, puis finalement on revient, mais je prolonge quand même pas. Je veux dire, là il y a un gros problème au niveau de la direction du club. Tous les clubs font ça. Un joueur qui veut pas prolonger, il reste sur le banc. Mais par contre, il reste pas sur le banc 3 semaines en fait. Il reste sur le banc 3 mois jusqu'à ce qu'il ait signé, ou il reste sur le banc jusqu'à la fin. Mais on peut
pas. C'est intéressant ton avis, Jennifer, parce que j'aimerais l'avoir. On a beaucoup de débats avec Daniel ou avec d'autres. Il y a dans le football aujourd'hui Kevin, il est bien placé, il est directeur sportif, mais des joueurs qui ne prolongent pas ou qui partent libres, oui, ils en payent les conséquences. Il y a beaucoup de joueurs qui sont mis au placard, qui sont mis au frigo parce que
Oui, mais c'est pas le même statut. Tout dépend du statut, évidemment. Comment te passer Mbappé, même s'il a décidé de partir
vrai,
libre.
Ce qui est vrai aussi, non,
mais,
c'est qu'il y a
mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui on en parle parce que c'est Mbappé, mais il y a
beaucoup de joueurs de son calibre qui sont partis libres.
Ça n'existe pas.
Oui, mais pourquoi? Donc
on en revient.
Je ne dis pas que c'est de sa faute.
Mais on en revient à ce que je dis, c'est-à-dire que normalement un club de la stature du Paris Saint-Germain ne laisse jamais un joueur comme Mbappé, son plus gros asset, partir libre. Enfin, je veux dire, à un moment donné,
Après, ils étaient sur d'autres réalités, hein. On l'a dit souvent, bon, dans l'after, ils étaient sur une réalité qui n'était pas uniquement sportive ou financière, mais aussi dans un but d'influence.
Donc, dans ce cas-là, tu fais pas ton caca nerveux sur les 3 premières semaines en disant, attention, si tu prolonges pas, tu joues pas. Dans ce cas-là, t'es logique avec toi-même et tu dis, il va partir libre, il nous a rendu service. Et puis,
pour répondre à ta question sur le Real Madrid, moi aussi, je suis curieux comme toi, mais moi, je l'imagine très simplement, en fait, comme ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, il va arriver tranquillement la première année, il va jouer au poste de numéro 9, il va claquer ses buts, et petit à petit...
Le naturel va revenir au galop.
Petit à petit, comme il a fait au PSG, il va gratouiller sportivement sur le terrain, en fait, de la place, un statut qui sera encore plus fort, et puis il va dire à Vinicius, oui, ce sera très très bien, mais si tu peux partir du Real Madrid et que j'aille jouer à gauche, mais à un moment opportun. Ils l'ont fait à un moment opportun. Quand Ramos commence à être blessé,
ils le prennent libre, il a intérêt.
Ronaldo commence à être vieillissant.
Parce que Bale, Hazard, oui, 100 millions, ils l'ont dit au revoir.
Non, mais ça, c'était des mecs qui étaient pas bons sportivement, qui n'en avaient rien à faire.
Mais tu respectes pas le truc.
Non, mais globalement, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je dis pas que j'ai, ça va être ce qui va arriver. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas une boule de cristal. Mais au PSG, regarde bien. Petit à petit, le petit frère de Neymar. Puis après, il a gagné la Coupe du Monde 2018. Et puis après, Neymar, il était un peu moins là.
Parce que le PSG l'a autorisé,
Le PSG l'a laissé faire. Quand il arrive, il est beaucoup plus jeune aussi. Et il n'a pas exactement la même concu qu'il va avoir aujourd'hui. Il ne va pas être attendu de la même manière. Les médias espagnols, ce n'est pas non plus détendre quand il s'agit de faire des polémiques. No offense aux journaux ici, mais on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de gens qui critiquent ni Mbappé, ni quoi que ce soit qui le concerne. Ça va être peut-être un petit peu différent dans un autre pays.
Quand on le fait, on est un corbeau et on est un petit peu Mbappé.
Mais il faut dire la vérité aussi. La presse française est extrêmement, extrêmement bienveillante avec lui.
Est-ce qu'en Espagne, ce sera la même chose?
J'en sais
Est-ce
rien.
Est-ce qu'ils pourront contrôler la com en Espagne?
On ne contrôle pas Walid, et c'est bien.
Et c'est bien là-dessus. Voilà pour qui.
Je devais dire du bien de Mbappé.
Walid. D'ailleurs, je voulais dire du bien.
Non, les gars. Pas le temps. Le direct, c'est Ligue des Champions, PSG, Barcelone.
Qu'est-ce qui se passe?
Quart de finale à Coubertin. Edgar Boulot est sur place avec des joueurs du PSG d'ailleurs.
On est devant.
Oui, ça fait 6 minutes que le match a repris en seconde période. 15 à 12 pour le PSG face à ce Barça. Il reste donc un peu moins de 25 minutes dans ce quart de finale. Allez, c'est comme au foot. Allez, retour. Et le PSG peut donc prendre une première option après ce match. 15 à 12. Donc pour le PSG face au Barça.
Et sache également que City mène 3-0 après 44 minutes de jeu sur la pelouse de Brighton. Voilà, reste avec nous, Génération After sur RMC dans un instant. Le quiz de l'After avec Jérôme Thomas, Gilbert, Daniel qui vont nous rejoindre. On va constituer les équipes pendant la pause et on vous attend au 32-16 également pour y participer. C'est RMC, c'est Génération After, 21h45. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, Jennifer Mendelevitch, Walid Acharchour, Gilbert nous a rejoint avant de lancer l'after à partir de 22h. Gilbert est prêt pour le quiz.
Toujours invaincu.
Non, mais ça, c'est une légende.
Gilbert, il perd toutes les semaines, mais il est invaincu.
Attends, on a perdu une fois, mais en fait, ça vaut pas, parce qu'ils étaient trois.
Exactement. Non, t'as perdu trois fois.
On s'est fait voler.
C'est parti pour le quiz de l'after.
RMC, le quiz de l'after.
J'accueille Jérémy et Nicolas. Salut.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue les gars, vous avez fait le 7-32-16, vous envoyez quiz, vous êtes sélectionnés pour gagner un Bomber Shot, la marque iconique américaine. Tiens, question pour vous puissiez choisir votre équipe. D'abord, je rappelle, on aura évidemment le duo classique désormais légendaire, Gilbert-Walid.
Invaincu.
Arrêtez, ils sont lourds les mecs. En face de Jennifer, Kevin bien sûr. Ouais. Alors question de rapidité aussi. Les amis.
Comment on dit invaincu en anglais?
Undefeated.
Quel est le score à la mi-temps?
Il parle mieux anglais que tout le monde, celui-là.
Les amis,
sorry, bro.
Question pour Jérémy et Nicolas. Quel est le score à la mi-temps entre Brighton et Manchester City?
Je ne sais pas. Ah merde, j'ai pas regardé.
Allez-y, tentez.
0-0?
Non, allez.
1-0?
Non.
2-0?
Non.
3-0.
Qui a dit 3-0?
C'est Jérémy.
Jérémy pour City. Très bien, Jérémy, tu veux jouer avec qui? Avec Gilbert et Walid?
Gilbert et Walid.
Il connaît.
Invaincu. Ouais. Allez, c'est parti.
J'ai toujours pas été présenté. Ouais, j'ai eu peur. Incroyable. Ça fait 4 jours que je prépare le quiz.
À la gauche.
Merci, je te remercie. Merci, Nico.
C'est terrible. On y va?
C'est parti. Allez, premier quiz, le quiz chaland ou non chaland?
Oui.
C'est sûr qu'il faut travailler parce que j'ai plus un signe de non-chalant. C'est comme on dit, je suis pas très chalant.
Est-ce que vous avez été chalant ou non-chalant sur les déclats des footeux de ces derniers jours? Question de rapidité, tout le monde joue. Qui a dit il n'y a pas de place pour les faibles dans la haute compétition?
L'étang.
Olivier Létang, c'est Gilbert.
1-0, Gilbert Walid.
C'est une réponse d'invaincu. Tout le monde joue. De qui parle cet ancien joueur? Il est discipliné, en même temps le dépassement de fonction, il a peur, donc il n'a pas peur, donc ça marche.
Henri.
Il était dans le cadre d'un registre défensif avec Deschamps en première mi-temps. On parle de qui?
Macron.
Oh, il est fort. Il est très très fort.
Emmanuel Macron.
C'est au-dessus, c'est au-dessus. Qu'est-ce que c'est fort?
C'est De Saïd qui l'a dit.
Et c'est De Saïd qui l'a dit. Mais ça vaut qu'un point.
Non. 2-0.
C'est une réponse d'un
vaincu.
Non. 2-0, les gars. Commencez pas. Allez, on avance.
Uniquement Jérémy et Nicolas, qui a dit le week-end dernier tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas?
Ah merde, c'est de Bordeaux là, Riera.
Oui, Riera. C'est Nicolas?
Non, c'est Jérémy.
Bien joué, Jérémy.
Non, c'est Jérémy.
Est-ce qu'à ce stade de la compétition, on peut viser le Fanny?
Ouais, on va y aller, je crois. Je crois que ça peut être une boucherie. 3-0. Duel Walid Kevin Diaz.
Oulala.
Qui a dit ce que j'ai vu ou pas vu reste dans le vestiaire? De même pour les conversations que j'ai avec mes joueurs et mon équipe, le reste c'est du cirque.
Luis Enrique.
Allez, ça y est, ça débloque le compteur. C'est parti.
Bravo.
3, duel Jennifer Gilbert. Qui a dit Lyon c'était clair, établi, Lyon ce n'était pas une rumeur, il y a eu
Habib B.
Ouais, c'est nous. Hein.
Non, c'est Gilbert.
Là, tu vois, on continue. Kevin ouvre les oreilles. C'est pour offrir un premier point dans l'histoire du quiz à Jennifer.
Merci.
Deuxième quiz.
Pardon, il s'est passé quoi là?
Non, c'est la tête du client. Deuxième quiz, le quiz à la
rapidité.
Avec les comptes qu'il y a là. Parce qu'il y a des comptes.
Quiz très con, mais ludique.
Ok.
Je vous donne le nom d'un joueur actuel de Ligue 1, vous devez me donner son prénom.
Ok.
C'est simple, si je vous dis Del Castillo, ça compte pas.
Romain.
Voilà, etc.
Calme-toi.
Ce sera plus dur que Romain, Benjamin. Ok, on y va. On commence avec l'attaquant de Clermont, Nicholson.
Ouais.
Comment il s'appelle?
André, non.
Daniel.
Non, pas mal.
Pas Jack.
Nicholson.
Vous l'avez pas?
Ça commence par quoi?
Personne. Jackson. Ça commence par S. Ah, ensuite c'est H.
Chamar Nicholson.
Sinon, tu peux lui donner tout le mot aussi.
Ah, l'attaquant monégasque, Mbolo.
C'est Kevin.
Brel, direct, sur la bouche comme ça, comme un postillon.
Oh les gars,
oh. J'admets qu'on n'a pas le point, mais c'est Jennifer qui a dit Brel.
Mais Brel, ça marche, c'est B-R-E-E-L.
Excuse-moi, le mec s'appelle Brel, c'est un peu bof.
J'ai essayé de le rendre plus sexy.
Attention, le défenseur.
5-2.
Le défenseur Lançois Machado.
Tévert.
L'attaquant, petit avantage pour Gilbert sur cette question. L'attaquant strasbourgeois Saïdion.
Moïse.
Bravo Ali.
6-3 les amis.
C'est pas terminé.
6-3 là.
Bien sûr,
c'est bon, le défenseur.
Excuse-moi, il y avait 5-2,
il y a 7-2. Non, non, c'est 6-3.
Le défenseur.
6-3,
Gilbert.
Un carton jaune.
Il a donné des verres et. Non, mais vous avez mal compté.
S'il vous plaît.
Non, il y a mal compté.
Je te le dis, c'est Jérémy Pignard, l'arbitre de ce match.
Carton jaune.
6-3. Allez, on y va. On avance.
Vamos.
C'est un vol en fond
de tu veux pas la VAR, tu veux la justice, tu veux les erreurs d'arbitrage.
Le défenseur, Gilbert, écoute. Le défenseur.
Voilà, c'est pas.
Le défenseur rennais, Omari. Une feuille, un crayon, vous allez écouter un court extrait. Il y a 6 personnes qui composent une phrase qui est à peu près cohérente. Il faut reconnaître un maximum de voix. Je vous explique, il y a un barème de points. Si vous en trouvez moins de 4, c'est 0 point.
Ok.
Si vous en trouvez 4, c'est 1 point. Si vous en trouvez 5, c'est 2 points. Si vous les trouvez tous, c'est 3 points.
Ouais, on va viser ça.
Attends, j'ai dit faire attention, ça va extrêmement vite.
Alors là, c'est l'extrait pour Gilbert et Walid. C'est pas pour vous, ok? Extrait Gilbert et Walid, on y va pour le premier mix, c'est parti.
C'est vrai que...
Machendo, très bonne prestation.
Malheureusement, le football, la note artistique, elle ne paye jamais.
François discipliné.
Parce qu'on avait envie de vraiment bien faire ici.
Et d'être dans cette situation.
Oh, c'est facile, là tu t'es régalé.
Normalement, vous faites 6.
Là, c'est grand chelem. Ils n'auront pas le 6e, je pense.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Proposition, Sim, Walid... Et Gilbert. Et Jérémy.
Gassé, c'est bon.
C'est bon.
Marquinhos. C'est bon. Sage.
C'est bon.
Derzakarian.
C'est bon.
Vieira,
c'est bon. Ça fait 5.
Ils n'auront pas le 6.
Il en manque un.
Nasri. Ah.
Pas du tout.
Nasri, c'est vrai qu'il a la même voix que Laszlo Bologna. C'est fou.
C'était Laszlo Bologna. 5 sur 6, ça fait donc 2 points.
2 points.
5, c'est invaincu ça encore.
Donc Jennifer. 10-3. Ça vous va,
10-3.
Ça vous va.
D'accord, ok. Jennifer, Keke Diaz, le son, vous avez écouté, même chose, 6 voix, c'est parti, vous devez en reconnaître le maximum. Go.
Un jour après, toujours difficile pour les joueurs.
On sera abattu quand la dernière journée sera passée.
La bronca du public, j'ai même pas envie d'en parler.
C'est dur de dire ça.
Juste, pas juste, j'en sais rien.
Je vais me remettre en question moi-même aussi.
Oh, je les ai tous, moi.
Vous êtes excellent à raconter.
Je les ai tous.
Pour les faire.
Normalement, au pire, c'est 4 sur 6. Au pire.
On peut pas le revoir?
Non, c'est pas possible.
Moi j'en ai 4.
Allez.
Je trouve qu'il est plus dur d'ailleurs.
Ouais, il est un peu plus dur.
Peut-être. Bon, moi, je pense qu'il en trouve 2 alors que 4 points.
Fonseca,
Aise.
Alors attends,
Fonseca,
Aise, Comboiré, Roy.
Pas mal.
Et
Nasser.
Bon. Hein?
Et
non.
Et oui, il y avait Nasser aussi.
Non, c'était Luc Elsner. Il y avait Luc Elsner.
Ça ressemble. C'est Elsner, Nasser, mais c'est pas ça.
Il y avait Luc Elsner.
Exactement.
Et Will Steel.
Et Will Steel, bien évidemment.
On
attend, dernier quiz rapide. Quiz des intelligents, on y va.
Ils ont pris un point là, quand même.
Jotte, ça s'achetait au supermarché, une intelligence. Je pense que tout le monde en achèterait une.
Des intelligents consacrés aux Gunners d'Arsenal, qui sont leaders de Première Ligue. On y va. Première question. Arsenal est en première division anglaise depuis très longtemps. Ça remonte à avant la Première Ligue. Écrivez-moi la date. Il vous semble être la bonne sur une feuille.
Sur une feuille et proposition dans un instant. Vous avez 5 secondes.
Écrivez-moi la date.
5 secondes. Plus que 3.
Je répète, je vous donne un indice. Plutôt, c'est le record en Angleterre. Arsenal est en première division anglaise depuis très longtemps.
Allez-y, proposition. On y va.
Qui commence?
Vous me montrez vos feuilles.
Vous me montrez, s'il vous plaît. Ah. Voilà, vous montrez. Si c'est pas très radiophonique, mais quand même. 1969 pour Walid. 57.
Nous, on a 57.
57. Mais c'est ici, c'était 1919.
Et c'est une question à 2 points en plus. C'est magnifique, ça revient.
C'est ce qu'on a dit, 96 saisons consécutives.
1909, on a mis.
Allez, 10-6.
Bien sûr. Il y a de toutes petites barres.
On a combien
à quelle équipe?
Question à 2 points.
À quelle équipe les Gunners sont-ils opposés lors du West London Derby?
Chelsea.
Tottenham.
Attends, c'est Jérémy ou Nicolas?
C'est Nicolas.
Nicolas, ça revient.
Bien joué, Nicolas.
T'as 17.
T'as dit ouais, c'est North London.
Ouais.
Bah si,
North London Derby, j'ai dit.
Il y a 17 là.
Il y a 17.
Mais non, mais on a mis 2 points.
Allez, c'est la dernière question.
Jérémy Pignard, plus Stéphanie Frappin.
C'est la dernière question.
À la base, c'est une horreur. J'ai jamais vu ça.
On passe de 10-3 à 17.
C'était deux points.
Et les deux points qu'on a pris.
Mais non, ils ont pris des points aussi.
Ils ont pris deux points sur les déclats.
Quel défenseur
s'il vous plaît.
Quel défenseur international. Quel défenseur international ivoirien aurait rêvé de jouer pour les canonniers?
Wilfried Canon.
Wilfried Canon, excellent.
Il y a combien, 19 là encore?
Ils sont revenus, égalité.
Point décisif.
Kevin, il n'a pas parlé depuis la semaine dernière, mais il y a 18.
Je raconte, j'ai donné les réponses. T'as rien donné, toi?
Une dernière?
Une dernière, pour le jeu.
Une dernière. Entre mai 2003 et octobre 2004, Arsenal reste invaincu en Première Ligue.
United.
Pendant combien de matchs exactement?
37.
Non. Chacun votre tour.
Je vais dire...
42, non.
Non, je vais dire... 35.
Non, mais c'est pas déjà, il y a au moins un championnat.
Oui,
ils sont invaincus sur la saison.
Sur l'intelligent.
Bon, les invincibles.
Ils sont restés invaincus entre mai 2003 et octobre 2004.
42.
45. Pas loin, c'est un peu plus que.
47.
C'est uniquement en première ligue, il n'y a pas la cup.
Un peu plus.
C'est uniquement en première ligue.
Ah, c'est uniquement en première ligue.
Je passe sur deux saisons.
49.
Allez, c'est bon. Victoire d'un point de Gilbert, Walid et Jérémy.
Invaincu.
Bravo Jérémy, tu remportes un bomber shot. Et puis Nicolas, tu remportes une casquette shot.
Jouer et gagner sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Rapidement, un point sur le handball, Ligue des Champions, quart de finale, PSG Barcelone,
Ça se complique même beaucoup hein, pour le PSG, 24 à 18 pour le Barça, 13 à 4 en deuxième mi-temps pour les Espagnols, c'est très compliqué, il reste un peu plus de 10 minutes.
L'after dans un instant, bien sûr, avec Gilbert qui prend le relais jusqu'à minuit, comme tous les soirs, et merci à Bam Bam, Grover Lode et Mac Delfino d'être venus nous voir ce soir, peut-être qu'ils diront un mot dans l'after dans un instant. Bye bye.